La personnalité de Jésus face au péché. Dans la guérison du paralytique, nous voyons comme rarement les liens entre le miracle et la possibilité pour la foi de découvrir la véritable identité de Jésus. On l'attaque, cet homme blasphème, sachant ce qu'il pensait Jésus riposte. Pourquoi ces pensées malveillantes dans vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien « Lève-toi et marche » Évangile de Matthieu 9, 3 à 5. Et suit cette phrase extraordinaire où la proposition subordonnée est bien. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés. Évangile de Matthieu 9, 6. Prend toute sa force dans une principale qui n'est pas simplement une affirmation mais un ordre qui se réalise et montre à l'évidence l'autorité souveraine du Fils de l'homme même sur les péchés. Il dit au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. » L'homme se leva et s'en alla dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné une telle autorité aux hommes. Évangile de Matthieu 9, 6 à 8. Jésus, par ses œuvres, comme il le dira si souvent dans l'Évangile selon saint Jean, montre à l'évidence à ses contemporains qu'il détient des pouvoirs divins, dont celui de remettre les péchés. Si vous ne croyez pas en moi, croyez du moins dans les œuvres que je fais. Évangile de Jean 10, 32. Jésus est le péché. Dans l'histoire du paralytique de Capharnaüm, il y a une double évocation du regard de Jésus. Il lit dans les cœurs, en premier dans les cœurs des hommes qui arrivent avec les fardeaux du paralytique. Il sent tellement la confiance à travers leurs gestes, lui qui voit si bien leur simplicité, leur foi dans toute leur démarche, que son cœur va laisser jaillir cette formidable parole de tendresse et d'amour divin envers ce pauvre homme gisant sur son grabat. Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. En un deuxième temps, son regard croise aussi celui des scribes qui disent en eux-mêmes, celui-ci blasphème. Évangile de Matthieu 9, 2 à 3. Il est aussi aisé pour lui de pardonner les péchés que de guérir les corps. Mais la guérison des cœurs passe en premier lieu. Car le royaume des dieux, c'est de devenir les fils du Très-Haut en acceptant toute sa volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il nous considère donc, dès que nous n'avons plus de péchés, comme des amis, comme les fils de la famille divine. Le mot n'a pas uniquement dans sa bouche un sens de tendresse, mais traduit la formidable réalité qu'il est venu apporter aux hommes. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et cette vie, c'est la vie même de Dieu. Oui, aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. Une des grandes espérances apportées par Jésus, c'est le pardon des péchés. Les péchés détruisent la joie, car ils nous enferment dans les créés que nous adorons comme un absolu. Le pardon du Seigneur nous rend à la vie heureuse de la famille de Dieu et nous redonne la joie d'être fils. Nous ne sommes plus prisonniers de ce qui est fragile et caduque, mais ouverts à un amour que Jésus lui-même appelle la vie éternelle. Et les scribes et les pharisiens commencèrent à raisonner disant, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut remettre les péchés ?» si ce n'est Dieu seul. Évangile de Luc 5, 20 à 21. De fait, la réflexion des scribes et des pharisiens s'explique, car ce n'est pas banal de s'ériger au centre du monde et de se mettre à la place même des dieux. D'où leur question, quel est donc cet homme? Qui est celui-ci? Évangile de Luc 5, 21. Qui peut se permettre une telle audace? Aucune bienveillance dans leur jugement. La religion elle-même leur sert de prétexte pour condamner. Jésus les devine et les dévance. Et Jésus, voyant leurs pensées, dit, « Pourquoi concevez-vous dans vos cœurs des pensées malveillantes? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont remis » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour remettre les péchés, alors il s'adressa au paralytique, « Te levant, prends ton lit et retire-toi dans ta maison. » Et se levant, il s'en alla dans sa maison. Évangile de Matthieu 9, 2 à 7. Jésus ne cherche pas à accaparer une autorité, un pouvoir. Il ne cherche que l'amour, le seul amour de Dieu qui nous fait fils de Dieu. S'il pardonne les péchés, ce n'est donc pas pour usurper un pouvoir qu'il possède déjà, mais pour nous apporter la tendresse de Dieu. Jésus guérit d'abord le péché, car il juge plus grave l'état du pécheur que l'état de malade. Il sait dire à cet homme, « Tes péchés sont remis », pour lui témoigner une attention qui va si loin. Le Fils de l'homme, dont l'identité tient de Dieu, affirme alors son autorité, et sur le péché et sur le monde, en guérissant d'un mot le paralytique. Il relie l'homme à Dieu et nous le rend présent. Se levant, le paralytique s'en alla dans sa maison, ce que voyant les foules furent saisies de crainte. Elles rendirent gloire à Dieu d'avoir donné aux hommes une telle autorité. Évangile de Matthieu 9, 7 à 8. Nous n'avons rien vu de pareil. Évangile de Matthieu 2, 12. Ses contemporains n'ont jamais rien vu de pareil, et cette autorité sur les péchés aussi bien que sur la maladie les stupéfie. Alors que les gens en place enragent de voir son influence, la foule rend grâce à Dieu. Jésus et les pécheurs, la vocation de Lévi. Peu après le choix de Pierre et d'André, de Jacques et de Jean, des pêcheurs du lac, Jésus choisira un publicain, un percepteur, dirions-nous, pour faire partie du groupe de ses disciples. Un homme mûr qui avait un métier et à qui, sous les couverts d'un impératif, il offre un choix définitif. Et il considéra un publicain nommé Lévi assis au bureau de la douane, et il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, en se levant, il les suivait. Évangile de Luc 5, 27 à 28. « Suis-moi. » Un de ces impératifs qui, tout en respectant la liberté, nous entraîne hors de ses voies communes. J'imagine que l'intonation, le regard de Jésus permettait à ce verbe de dire tant de choses intransvisible, mais qui permirent à cette parole de transformer les vies, car c'est une parole vivante et agissante que ce verbe. Au moment de l'appel de Lévi, Jésus donne sa réponse aux pharisiens, qui lui reprochent ses relations avec les publicains, les pécheurs publics. Il affirme à tous sa vraie mission. C'est pour ce genre-là, ce genre méprisé qu'il est venu. « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la pénitence. » Évangile de Luc 5, 32. Et il n'y a pas de la part de Jésus dans cet appel à la pénitence, qui signifie, dans la bouche de Jésus, changer des mentalités, se trouver, se tourner vers le royaume des dieux et abandonner nos manières toutes terrestres des pensées. Jésus sait que les publicains en sont loin, mais eux acceptent de se convertir, de se tourner vers d'autres centres d'intérêt que l'argent et les plaisirs sous toutes ses formes. On sent bien là, dans cette réponse, toute la présence d'esprit et la finesse du Seigneur. Sa sagesse est calme, parfois pleine d'humour, jamais acidulée. Il nous appelle, nous tous, pauvres pécheurs, la vocation de saint Matthieu. Et il sortit de nouveau le long de la mer, et toute la foule venait au-devant de lui, et il les instruisait. Et s'éloignant, il vit Lévi, fils d'Alphée, appelé Matthieu, assis au bureau de la douane, et il lui dit « Suis-moi ». Et se levant, il le suivait. Évangile de Matthieu 2, 13 à 14. Et il considéra un publicain nommé Lévi, assis au bureau de la douane, et lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, et se levant, il le suivit. Évangile de Luc 5, 27 à 28. Dans la Palestine de cette époque, choisir comme ami et comme intime, Matthieu fait partie des 12, un publicain. Il faut du toupet et du courage. Mais Jésus est anticonformiste. Seule la vérité de l'homme l'intéresse. Et Lévi lui fit un grand festin dans sa maison. Et il y avait grande foule des publicains et d'autres qui étaient à table avec eux. Évangile de Luc 5, 29. Lévi lui fait fête et lui offre un banquet au milieu de tous ses amis publicains. Jésus aime la fête et y participe sans arrière-pensée. Levé de bouclier contre ce prophète à la manière qui fréquente de tels gens. Et les pharisiens et leurs scribes murmuraient en s'adressant à ses disciples disant « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et avec les pécheurs ?» Évangile de Luc 5, 30. Jésus répond lui-même à leur attaque. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé, qui ont besoin du médecin, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la pénitence. Évangile de Luc 5, 31, 32. On ne peut être plus clair sur les buts de sa mission. Ce sont les pauvres à qui il est venu annoncer la bonne nouvelle. Pour Jésus, le passé n'est pas d'un tel poids qu'ils doivent écraser l'avenir. Jésus est le Dieu de l'espérance. Il s'adresse aux malades de l'âme et de l'esprit pour les réconcilier avec Dieu et avec eux-mêmes. Les pharisiens et leurs scribes ont raison, les publicains sont des pécheurs, mais il leur offre, comme à tous les hommes, la chance de se transformer, de faire pénitence, de changer de mentalité. C'est tout le sens de son regard qui croise celui de Lévi et l'engage à quitter sa place installée, assise, et à le suivre dans une toute autre aventure. La joie du royaume, une question sur le jeûne. Mais le scribe et les pharisiens lui dirent, « Les disciples des gens jeûnent fréquemment et font des prières, et de même ceux des pharisiens, tandis que les tiens mangent et boivent. » Évangile de Luc 5, 33. L'humour de Jésus leur répond que sa présence n'a rien de triste et que lui présent ses amis ne peuvent vraiment pas jeûner. Et Jésus leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les garçons des noces pendant que l'époux est avec eux ? Des jours viendront, et après que l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront dans ce jour-là. » Évangile de Luc 5, 34-35. S'il ose se donner le titre mystérieux d'époux, c'est qu'il a épousé la nature humaine pour devenir ainsi l'ami par excellence de tout homme. En lui, l'homme s'unit à la divinité comme l'épouse à son époux. Jésus ne critique pas le jeûne des disciples des Jean et des pharisiens, mais il montre vis-à-vis de ses observances bien souvent ambiguës dans leur motivation, une grande liberté d'esprit. Pour les siens, ils préfèrent l'atmosphère d'amitié qui lui rappelle la joie d'une noce à des pénitences spectaculaires. L'intimité avec le Christ, la liberté des relations entre lui et les siens, lui semble bien plus valable que la tristesse stérile et orgueilleuse de la pénitence. Ce passage s'adresse en premier aux apôtres, la présence de Jésus, la vie, le dynamisme de son équipe, toujours par mots et par vos, leur enlève toute pensée de jeûne et de pénitence. Mais Jésus les avertit. Lui parti, ils auront leur jour de jeûne. Car dans la vie spirituelle, dans notre vie d'union avec Dieu, il y a aussi des jours sombres où le Seigneur s'éclipse et où il nous faut jeûner. L'époux ne reste pas toujours près de nous, mais la qualité de l'amour se mesure à la fidélité de l'épouse durant l'absence de l'époux. C'est là, aux heures de séparation, que le Seigneur nous attend. Aussi notre vie spirituelle comprend-elle toujours cette alternance de présence et d'absence. Il n'y a pas à s'étonner non plus du fol enthousiasme et de la joie provocante des nouveaux convertis. Pour un temps, ils sont les garçons d'honneur de l'éternelle noce du Fils de l'homme. L'image du vin nouveau est tout autant suggestive du dynamisme de sa doctrine et de la joie puissante qu'elle nous apporte. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, car autrement le vin nouveau romprait les outres et se répandrait, tandis que les outres seraient perdues. Mais il faut mettre vin nouveau en outre neuve. Évangile de Luc 5, 37. Il y avait aussi d'humour à comparer les pharisiens et leurs scribes à de vieilles outres, incapables de recevoir le vin nouveau de la bonne nouvelle. Habitués qu'ils sont au vin vieux, ils ne peuvent goûter les nouveaux. Et personne, pendant qu'il boit du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Évangile de Luc 5, 39. Jésus n'imite pas, ne calque pas, n'emprunte pas. Sa doctrine si originale se développera avec tant de virtualité, vitalité, qu'elle ne tolérera pas des mélanges. Elle va bouillonner comme le vin nouveau dans des outres neuves. Mais le faux mosaïsme des pharisiens ne peut recevoir cette jeune sève. Ces pauvres gens sont rétrécis, figés dans leur tradition, alors que la doctrine du Christ est toute de vie, de joie et d'épanouissement. Ces apôtres, ces garçons d'honneur, sont les bouts en train des noces du royaume. Personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres, autrement le vin rompra les outres, et le vin sera perdu aussi bien que les outres, mais vin nouveau en outre neuve. Évangile de Matthieu 2, 22. Dans l'image de la pièce neuve rapportée sur un vieux vêtement, en lisant ce même verset dans les trois évangiles, c'est chez Luc que la comparaison du Seigneur est dans toute sa fraîcheur. La femme qui écoutait et qui lui a transmis la scène n'a pas tronqué l'histoire. Elle avait non mari. On ne déchire pas un habit neuf pour réparer un vieux. Évangile de Luc 5, 36. Les deux autres témoins ne parlent que de pièces neuves sur un vieil habit. Évangile de Marc 2, 21. Évangile de Matthieu 9, 16. L'homme libre, les épis froissés. Jésus n'abandonne jamais les siens. Il advient un jour de sabbat, pendant qu'il traverse des récoltes, que ses disciples arrachent des épis et les mangent en les frottant dans leurs mains. Quelques pharisiens disent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat ?» Évangile de Luc 6, 1 à 2. Jésus prend la parole et, partant des deux exemples historiques, celui de David mangeant les pains des propositions et celui des prêtres qui travaillent dans le temple les jours du sabbat, il a vite fait de défendre ses disciples. La loi n'est pas si absolue qu'ils veulent bien le laisser entendre, elle n'est faite que pour l'homme et non le contraire. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Évangile de Luc 6, 2 à 5. Quel caractère, quelle liberté d'esprit possédait Jésus-Christ pour se libérer de la mentalité ambiante. Il lui a fallu beaucoup d'audace pour parler et agir en contradiction avec les principes religieux de son temps.